Bonjour et bienvenue à cette croisière rencontre littéraire. Nous sommes honorés d'accueillir un des plus grands philosophes contemporains, actuels, vivants, André Comte-Sponville. Merci d'avoir fait, nous avoir fait l'honneur de nous rejoindre. Merci à vous pour votre présence. Alors, vous avez une actualité en ce moment, c'est ce livre, « Ces choses tendres que la vie », un essai, un livre d'entretien. Quelques mots pour les gens qui peut-être ne vous connaîtraient pas encore. Vous avez appris vous avez enseigné la philosophie de nombreuses années, d'abord dans un lycée, ensuite à la Sorbonne à Paris, avant de vous mettre à l'écriture. On a connu de vous surtout, vous êtes fait connaître au grand public avec notamment le Traité du désespoir et de béatitude, premier tome, Le mythe d'Icare, le deuxième, Vivre, et ensuite un autre livre que les férus de vous n'ont pas pu passer à côté, Le petit traité des grandes vertus, ou en 2000, Le bonheur désespéré. Aujourd'hui, vous offrez ce livre, un livre bilan, mais rassurez-nous, vous n'allez pas, ce n'est pas un adieu.
Non, d'abord, bonjour à tous, merci à vous. Non, c'est effectivement un livre bilan, ce n'est pas un livre d'adieu. C'est pas du tout la même chose. Des adieux, il y a quelques ridicules à en faire plusieurs, même si telle ou telle vedette de la chanson est entrée dans ce cas de figure. Des bilans, on peut en faire plusieurs. On peut faire un bilan tous les ans, tous les 10 ans, si on veut. Simplement, moi, c'est mon premier bilan. Parce que donc, j'ai 63 ans, pour tout vous dire. Ça fait 40 ans que j'écris. Et donc, j'ai trouvé qu'il était temps de faire le point. Et ce livre, qui est effectivement un livre d'entretien, m'a permis de le faire. Alors, deux mots de présentation générale avant de rentrer dans la discussion. D'abord, sur le titre. Ces choses tendres que la vie, c'est un emprunt que j'explique dans le livre à Montaigne. Montaigne écrit dans les essais, ces choses tendres que la vie est aisée à troubler. Ces choses tendres que la vie est aisée à troubler. Il s'est trouvé que dans le cours d'entretien, j'avais cité cette phrase plusieurs fois et donc l'idée m'est venue d'en faire un titre. Vous comprenez bien que tendre dans cette phrase de Montaigne a un peu le sens de la fragilité, au fond. Presque de la tendreté, sauf que le mot ne se dit guère que d'un morceau de viande, autant que de la tendresse. Et j'étais très vivement frappé par cette phrase, parce qu'au fond, moi qui ai beaucoup travaillé, d'abord en m'appuyant sur Épicure et sur Spinoza spécialement, c'est-à-dire sur des sagesses extrêmement ambitieuses, qui se prétendent en quelque chose indestructible. Vous savez que le propre de la sagesse, pour Épicure, c'est l'ataraxie. Or, ataraxia en grec, ça veut dire exactement absence de trouble. Et puis je lis chez Montaigne, ces choses tendres que la vie est aisée à troubler. Ce qui m'a permis de comprendre, ou plutôt de l'avoir déjà compris, mais d'enregistrer l'idée que cette sagesse absolue d'Épicure ou de Spinoza, cette absence de trouble, au fond, j'en étais incapable. Et la plupart de nous, peut-être nous tous, nous en sommes incapables. Ce qui m'a amené à penser ce que j'appelle maintenant une sagesse de second rang, c'est-à-dire une sagesse à la Montaigne, la sagesse de Montaigne, qui est une sagesse au fond pour ceux qui ne sont pas des sages, qui savent bien qu'ils ne le seront jamais, mais qui ont la sagesse au moins de l'accepter. Voilà. Et c'est cette sagesse plus humaine, cette sagesse plus humble, cette sagesse plus tendre, la sagesse de Montaigne, au fond, dans laquelle je me reconnais le mieux. Alors maintenant, un dernier mot sur l'écriture de ce livre. Au départ, l'idée n'est pas de moi. C'est l'un des très rares livres que j'ai fait dont l'idée initiale ne soit pas de moi. Il s'est trouvé que depuis 20 ans, j'avais fait une dizaine d'entretiens avec un professeur de philosophie qui est aussi éditeur et journaliste, qui s'appelle François Livonnet, pour des revues. Et François Livonnet m'avait dit « ça serait bien qu'on rassemble les 10 entretiens qu'on a faits pour en faire un livre ». Et j'avais eu la faiblesse d'accepter, parce que je trouvais que ce type était sympa, j'avais gardé un bon souvenir de nos entretiens, sauf que, il y a 2-3 ans, François Livonnet m'envoie par mail le recueil de nos 10 entretiens, que j'imprime, parce que je suis incapable de lire un long texte sur écran, je l'imprime, donc ça faisait, c'était beaucoup moins gros que ça, mais ça faisait 150-200 pages. Et je commence à les lire, et j'ai trouvé ça extrêmement mauvais. Je veux dire que chaque entretien de 15 ou 20 pages dans une revue, c'était plutôt un entretien de bonne qualité. Mais rassembler les 10, ça faisait un livre qui n'était pas un livre, précisément. D'abord, c'était de l'oral, transcrit, bien sûr, relu et corrigé par moi. Mais vous savez, quand on passe de l'oral à l'écrit, c'est toujours décevant, c'est toujours un peu plat. Et donc, j'ai dit à François Livonnet, écoute, pas question de publier ça, même en le corrigeant, ça ne fera pas un livre. Et donc, je lui ai dit, on efface tout, on oublie tout, on recommence à zéro, en procédant cette fois directement par écrit. Donc c'est un livre d'entretien, mais qui se sont faits intégralement par écrit, en l'occurrence par email, puisque c'est ce que nous permettent maintenant les nouvelles technologies. L'idée que j'avais, et que j'ai essayé d'assumer, c'est d'essayer de retrouver par l'écriture quelque chose de la légèreté, de la vivacité, je dirais presque de la fragilité de la parole. Et je trouve qu'au fond, c'est plus intéressant comme exercice littéraire d'essayer de retrouver la parole par l'écriture, plutôt que de faire un livre magnétophone, comme il y en a tant, où on passe de la parole à l'écrit. Donc c'est un vrai livre d'entretien, avec ce que ça suppose d'échange, de vivacité, de ping-pong, si vous voulez, en quelque chose. Mais en même temps, c'est un vrai livre, parce que justement, on a pris le parti, et j'en suis content, de le faire intégralement par écrit.
Cela vous a permis de faire un bilan, vous-même, de votre propre carrière, des idées que vous avez énoncées. Quel bilan vous faites ? Est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir pu œuvrer sur les réflexions qui vous tenaient à cœur ? Est-ce que vous avez eu l'impression d'être compris aussi ?
Oui, au fond, moi, j'aurais tort de me plaindre. D'abord, écrire, pour moi, c'est un rêve d'enfance, d'adolescence, mais déjà d'enfance. Alors à l'époque, je pensais plutôt écrire des romans. Quand j'avais 11-12 ans, je ne lisais pas de philosophie. Donc je lisais des romans et j'imaginais plutôt devenir romancier. Puis j'ai trouvé que découvrant la philosophie, j'ai trouvé qu'au fond, la philosophie, c'était plus intéressant que la fiction. Peut-être que ça me correspondait mieux. J'aurais tort de me plaindre, puisque j'ai publié beaucoup de livres dont j'ai la faiblesse d'être satisfait. Finalement, j'ai eu beaucoup de succès et je crois avoir été au total assez bien compris, même si j'ai profité de ce livre effectivement pour rectifier un certain nombre de contresens, de mauvaises interprétations ou parfois de lectures de mauvaise foi, parce que ça arrive, parce que vous savez, alors peut-être spécialement en France, je ne sais pas si c'est pareil en Suisse, mais en France, on vous pardonne vos échecs plus facilement que vos succès. Et donc, quand j'en ai parlé récemment avec Eric Emmanuel Schmitt, qui a eu considérable succès aussi, quand vous avez des livres qui ont comme ça un succès un peu hors norme, ce qui était le cas du Petit Traité des Grandes Vertus, jamais un livre de philosophie ne s'était vendu comme ça. Bon, alors forcément, il y en a qui vous le reprochent. Il y a une partie de jalousie ou d'envie. Et donc j'ai été l'objet, mais c'est normal, hein, je ne me plains pas de tel ou d'un certain nombre d'attaques, qui sont d'ailleurs un peu calmées avec le temps. Aujourd'hui, c'est plutôt Michel Onfray qui sert de tête de turc aux journalistes de la presse parisienne. Je lui cède volontiers la place. C'est quelqu'un que j'aime bien, par ailleurs. On est très différents, mais c'est un ami, Michel. Mais, voilà, donc ça fait partie de la petite vie parisienne. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. En revanche, après 40 ans de travail, je crois que c'était le bon moment, en effet, pour faire le point. C'est-à-dire que c'est un livre bilan, au deux sens du terme. D'un côté, parce que j'essaye d'exposer l'essentiel de ma philosophie, et j'en suis content parce que je crois que je n'avais jamais aussi bien exprimé, peut-être même jamais aussi bien pensé, au fond, ce que je crois être la vérité. Alors, je peux me tromper, mais ce que je crois être la vérité. Mais c'est aussi un livre autobiographique. C'est un bilan au sens un peu narratif du terme. Disons que c'est une autobiographie intellectuelle. D'ailleurs, pas seulement intellectuelle, parce que poussé par les questions de François Livonnet, j'ai été amené à parler de moi, y compris, non pas en tant que philosophe, mais en tant qu'individu. Et je crois que j'ai parlé de moi dans ce livre beaucoup plus que je ne l'avais jamais fait, en tout cas publiquement, dans aucun de mes livres. Voilà, c'est une autobiographie intellectuelle et dialoguée.
Vous rectifiez quand même un sacré malentendu, parce qu'au-delà des questions de jalousie, on vous a souvent considéré comme le philosophe du bonheur, alors que vous êtes plutôt un philosophe, vous le dites vous-même, du côté du tragique. Et vous écrivez même dans le livre, si j'avais une facilité particulière pour le bonheur, ça se saurait.
Oui, bien sûr. C'est un peu le paradoxe, au fond. Est-ce que je raconte dans le premier chapitre, où je parle de mon enfance, de mon adolescence, c'est que moi, au fond, j'étais un enfant grave. Il y a des enfants gays, il y a des enfants légers, c'est délicieux, c'est peut-être ceux que je préfère finalement, mais moi non. Moi j'étais un enfant grave, plutôt mélancolique, plutôt anxieux, là pour des raisons au moins en partie biographiques, c'est-à-dire que ma mère était dépressive, mon père était très très dur, très, pas violent, mais très méprisant, très très rejetant, mes deux parents s'entendaient très mal. Et donc voilà, c'est une enfance douloureuse. Alors, c'était pas du Zola, hein, c'était pas un enfant battu, etc. Mais c'est une enfance douloureuse dans une famille déchirée. Voilà. Et donc, pour moi, en effet, le bonheur n'allait pas de soi. Et d'ailleurs, pour raconter une anecdote que je n'ai pas mise dans le livre parce que je voulais pas faire de peine à mon frère et à ma sœur, mais... quand notre mère s'est suicidée, alors là on était adulte, j'avais une trentaine d'années, elle avait fait plusieurs tentatives quand nous étions enfants, c'est mon frère qui a découvert son cadavre. Il m'appelle pour me dire, voilà, maman s'est suicidée. Et la première phrase qui m'est venue, qui m'a surpris moi-même, c'est pourquoi je l'ai retenue, ça a été de me dire, tout était faux en elle, sauf le malheur. Il ne faudrait pas que la phrase soit méconnue, c'est une mère mal comprise, c'est une mère très aimante, que j'aimais passionnément, que j'aime toujours passionnément, mais quand je dis que tout était faux en elle, sauf le malheur, ça veut dire qu'il lui arrivait d'être joyeuse, mais ça sonnait faux. Elle était dans une forme de théâtralisation, d'histrionisme, comme disent maintenant nos psychologues, alors qu'inversement, quand elle était malheureuse, quand elle pleurait dans mes bras, c'était d'une vérité totale. Et donc j'avais gardé l'idée, le sentiment dans mon enfance ou mon adolescence que la joie et l'illusion allaient ensemble. Parce que chez ma mère, c'était comme ça. Elle était joyeuse dans les moments d'illusion, de faux-semblants, de théâtre. Et qu'inversement, la tristesse et la vérité allaient ensemble. Parce qu'en effet, chez ma mère, c'était comme ça. Et puis découvrant la philosophie, et spécialement découvrant la philosophie grecque, peut-être spécialement Épicure, mais je l'ai retrouvée aussi un peu plus tard chez Spinoza, j'ai découvert l'idée exactement inverse. C'est l'illusion qui rend malheureux et c'est la vérité qui libère. C'est pourquoi il m'est arrivé de dire que la philosophie avait été ma bonne mère, au sens que Melanie Klein donne à cette expression, c'est-à-dire, Melanie Klein dit qu'on a une mère, mais que l'enfant a tendance à projeter sur elle deux images différentes, qui se mêlent ou qui alternent selon les cas, la bonne mère et la mauvaise mère, celle qui est un peu inquiétante. Bah, la bonne mère, celle qui m'a rassuré, celle qui m'a éclairé, celle qui m'a aidé à vivre, ça a été en effet la philosophie. Et c'est là où j'ai redécouvert l'idée de bonheur. Et au fond, c'est justement parce que j'étais peu doué pour le bonheur, pour les raisons que je viens d'évoquer rapidement, que j'ai eu besoin de beaucoup philosopher pour redonner au bonheur une forme de plausibilité. Parce qu'au fond, celui qui est très doué pour le bonheur, qui se réveille tous les matins de bonne humeur, à la limite, il peut se passer de philosophie. Alors, il peut en faire parce que c'est très intéressant, il y a le plaisir de penser. Moi, ça me passionne, la philosophie, vous voyez, mais il n'en a pas forcément le même besoin existentiel. Alors que moi, à l'inverse, qui sincèrement était peu doué pour la vie, peu porté au bonheur, j'avais en effet besoin de philosopher. D'autant qu'arrivant en terminale, au lycée, donc découvrant la philosophie, je me suis découvert étonnamment doué pour cette discipline. Voilà. Je le dis de façon qui peut paraître immodeste, mais c'est comme ça. C'est-à-dire, moi, j'étais un élève tout à fait moyen, je ne brillais nulle part, sauf parfois en français. Et puis tout d'un coup, j'arrive en terminale, première dissertation, j'avais de très très loin la meilleure note. Et j'ai toujours eu de très très loin en terminale la meilleure note. Et donc, quand vous découvrez ainsi votre propre difficulté de vivre, votre fragilité, votre faiblesse de vivre, d'un côté, et d'un autre côté, votre puissance de pensée, bah forcément, il est légitime de mettre sa puissance de pensée au service de sa faiblesse de vivre. Et ça, je crois que c'est le geste foncier de la philosophie. En tout cas, c'est comme ça, moi, que je l'ai vécu, ça a été mon chemin. Et donc, redécouvrant le bonheur, au moins comme idée grâce au texte philosophique, j'étais, ça c'est vrai, l'un des premiers à refaire du bonheur une notion philosophique. Parce que les gens de ma génération le savent, s'ils ont lu de la philosophie, quand j'étais étudiant dans les années 70, aucun philosophe ne parlait de bonheur. Hein. C'était une idée totalement obsolète. Vous pouvez lire tout Derrida, tout Deleuze, tout Foucault, tout Althusser, tout Lévi-Strauss. Peut-être même que le mot de bonheur n'y apparaît pas. En tout cas, l'idée n'est jamais développée. Et donc, quand les journalistes ont vu apparaître un philosophe, qui plus est très jeune, mais mon premier livre, je devais avoir, je ne sais pas quoi, 32, 33 ans, qui parle du bonheur, ça a fait un peu l'événement. Au point qu'ils ont méconnu le fait qu'en effet, et ma sensibilité, mais aussi le fond de ma pensée, relevait plutôt de ce qu'on appelle en philosophie la tradition tragique. Pas du tout le culte du malheur. Mais au fond, alors qu'est-ce que c'est que le tragique ? Aristote, dans la Politique, explique que le tragique, au sens d'abord des tragédies grecques, mais aussi comme concept philosophique, est fondé sur deux affects, la crainte et la pitié. Autrement dit, ce qu'on appelle tragique en philosophie, c'est la prise en compte de tout ce qu'il y a de pitoyable ou d'effrayant, de pitoyable et d'effrayant parfois, dans la condition humaine. Et c'est vrai que c'est à la fois ma sensibilité et ma pensée, au fond. Parce qu'au fond, si vous ne croyez pas en Dieu ni en une vie après la mort, ce qui est mon cas, je suis athée, reconnaissons qu'il y a quelque chose de tragique dans la condition humaine. Mais c'est justement parce qu'il y a quelque chose de tragique dans la condition humaine qu'il importe, entre autres, de réfléchir au bonheur. Pas du tout parce que le bonheur serait la seule question philosophique, même pas parce que ça serait la question la plus importante, ce que je ne crois pas non plus. Je crois que l'amour est une question plus importante que le bonheur, et j'ai beaucoup plus écrit sur l'amour que sur le bonheur. Donc voilà, c'est vrai que j'ai refait du bonheur une notion philosophique, j'ai refait de la sagesse une question philosophique, et je l'assume, j'en suis content. De là à m'enfermer dans le rôle un peu ridicule de philosophe du bonheur, effectivement, il y a un pas. Et c'est là où j'essaye de remettre les pendules à l'heure. Ajoutons, et j'en ai fini sur ce point, que ce qui explique aussi le contresens d'un certain nombre de journalistes, c'est qu'au fond, moi, j'ai publié, je crois, 26 ou 27 livres. Il y en a un seul qui porte sur le bonheur. Mais il se trouve, c'est le plus court et le plus facile à lire. Ça s'appelle « Le bonheur désespérément ». C'est la transcription d'une conférence que j'ai faite très souvent sur le bonheur. Et forcément, pour les journalistes, quand ils tombent sur un livre comme ça, très court, très facile à lire, ça leur permet d'éviter de lire les autres. Et en plus, il se trouve que ce bouquin, qui n'a pas eu une ligne de critique dans la presse, c'était un tout petit éditeur qui d'ailleurs n'existe plus, c'était l'édition Plein Feu à Nantes. Ça n'a eu aucune critique dans la presse, mais ça a eu un succès, ce qu'on appelle un long seller chez les éditeurs. C'est-à-dire un succès sur la longue durée, c'est-à-dire qu'en gros, il s'en vend 10 000 exemplaires par an depuis 15 ans. Et donc, ça a beaucoup contribué, effectivement, à me donner cette image de philosophe du bonheur. Donc, j'assume totalement le fait que la philosophie, ça sert à vivre mieux, et donc, si possible, à être plus heureux qu'on ne le serait sans. Ça ne veut pas dire, évidemment, que la philosophie va vous rendre heureux en permanence. D'ailleurs, il faudrait après, on pourra y revenir sur ce qu'est le bonheur. Mais s'il y en a parmi vous qui croient que le bonheur, c'est une joie constante, permanente, immuable, alors désolé de vous décevoir, ça n'existe pas.
Vous parlez d'ailleurs de la confusion que beaucoup font entre sagesse et bonheur.
Oui, mais alors c'est une confusion là, qui peut s'expliquer un petit peu historiquement, parce que c'est vrai que chez les Grecs, qui ont inventé le mot sophia, le mot philosophia, l'amour de la sagesse se reconnaît à un certain bonheur, mais pas n'importe quel bonheur. La sagesse, pour les Grecs, c'est le bonheur dans la vérité. Alors, le peu de vérité qu'on connaît, on ne la connaît jamais toute, jamais absolument, mais on en connaît assez malgré tout, pour faire une différence entre la sincérité et le mensonge, entre la lucidité et l'illusion. Entre la connaissance et l'ignorance. Donc, la sagesse, c'est le bonheur dans la vérité. Moi, je dis plus modestement, qu'est-ce que c'est que la sagesse ? C'est le maximum de bonheur dans le maximum de lucidité. Ça veut dire que si vous devez votre bonheur à telle ou telle illusion, à fortiori telle ou telle drogue ou médication, personne n'appellera ça une sagesse. Mais c'est vrai que pour Épicure, comme plus tard pour Spinoza, le sage est heureux, et lui seul peut-être. Alors que moi, je crois au contraire, plus proche ici de Montaigne, plus proche pour une fois de Kant, qu'il est peut-être possible d'être heureux sans être sage, et qu'il est tout à fait possible d'être sage sans être heureux. Et c'est là où j'étais amené à mettre de l'eau dans mon vin de jeunesse, si vous voulez. Socrate dit, et les stoïciens et les épicuriens diront la même chose, que le sage peut être heureux même sous la torture, même sous la torture. Le grand Aristote, avec le mélange de génie et de bon sens qui le caractérise, écrit dans l'Éthique à Nicomaque que prétendre que le sage peut être heureux même sous la torture, c'est parler pour ne rien dire. Et j'en suis d'accord. J'en suis d'accord. Mais, et donc, le sage, bien sûr, n'est pas toujours... Alors les stoïciens nous disent, bon, tu viens de perdre ton fils, ta fille, mais c'est pas grave, si t'as la sagesse, t'es heureux quand même. Peut-être, mais cette sagesse-là, un, j'en suis incapable, deux, j'avoue qu'elle ne me tente même pas. Vous savez, il y a eu un moment important dans mon parcours de jeune philosophe, quand j'ai publié mon premier livre, donc Le Mythe d'Icare, que vous évoquiez, là, dont je l'assume tout à fait, hein, je suis toujours d'accord avec l'essentiel de ce qu'il disait, mais donc à l'époque, j'étais plus spinoziste que je ne le suis aujourd'hui. Donc je prenais la sagesse davantage au sérieux. Et comme le livre avait déjà eu du succès, j'ai commencé à faire pas mal de conférences dans le grand public sur l'idée de sagesse, de sérénité, de bonheur, etc. Et dans le débat qui suit ma conférence, il y a une femme qui prend la parole, une femme entre deux âges, 45 ans peut-être, donc beaucoup plus jeune que je ne suis maintenant, mais beaucoup plus vieille que je ne l'étais à l'époque. Elle prend la parole et elle me dit, écoutez, vraiment, j'ai beaucoup aimé votre conférence, c'est formidable tout ce que vous dites sur la sagesse, la sérénité. Il y a juste un problème, me dit-elle. Quand on a des enfants, ça ne marche pas. J'étais déjà jeune père de famille, en l'occurrence cruellement frappé par le destin. J'avais perdu notre premier enfant. Enfin, nous avions perdu notre premier enfant. Et je lui ai répondu deux choses. Un, chère madame, vous avez raison. Deux, ce n'est pas une raison pour ne pas faire d'enfant. Et là, tout d'un coup, je comprenais, parce que ça m'éclairait moi-même, qu'au fond, si c'est uniquement la tranquillité qu'on cherche, la sérénité, sincèrement, il vaudrait mieux pas faire d'enfants. Vous savez ce que disait Victor Hugo, faire des enfants, c'est donner des otages au destin. Ben oui, qui peut aimer sans trembler. Sauf que l'amour de la vie est bien plus important que l'amour de la sagesse ou que l'amour de la sérénité. Je dirais même, et donc l'amour de la vie est plus important que la philosophie. Si la philosophie, étymologiquement, c'est l'amour de la sagesse, philosophia. Je dirais même que la seule vraie sagesse, du moins la seule qui m'importe, celle de Montaigne, c'est l'amour de la vie. Vous savez, à la fin des essais, à l'extrême fin, dans le dernier essai du dernier livre des essais de Montaigne, Montaigne écrit simplement « Pour moi donc, j'aime la vie. Pour moi donc, j'aime la vie. » Eh bien, pour moi, c'est la formule même de la sagesse. Autrement dit, la sagesse, contrairement à ce que certains croient, peut-être même contrairement à ce que j'ai cru moi-même dans ma jeunesse, la sagesse, c'est pas l'amour du bonheur. Pas besoin d'être sage pour aimer le bonheur. N'importe quel crétin est capable d'aimer le bonheur. Je ne reproche pas, mais c'est facile. La sagesse, ce n'est même pas l'amour de la sagesse. Pas besoin d'être sage pour ça. N'importe quel philosophe est capable d'aimer la sagesse. Il le porte dans son nom, philosophia, l'amour de la sagesse. Sauf que la vraie sagesse, c'est pas l'amour du bonheur, c'est pas l'amour de la sagesse. La vraie sagesse, c'est l'amour de la vie. Heureuse ou malheureuse, sage ou pas. Et bien sûr, aucune vie n'est heureuse ou sage dans son entier. Et c'est là qu'on retrouve cette sagesse de second rang, la sagesse à la Montaigne, et ces choses tendres que la vie et aisé à troubler. Ceux qui croient que la sagesse, c'est ce que disait Lucrèce, génial disciple d'Épicure, pour Lucrèce, la sagesse est une forteresse inexpugnable. Tu es dans la forteresse de la sagesse, il ne peut plus rien t'arriver. Ataraxia, l'absence de trouble. J'y ai un peu cru quand j'avais 20-25 ans, quand je découvrais Épicure et Lucrèce, bien sûr que je n'y crois plus du tout. Et le fait que la vie soit une chose tendre et aisée à troubler, ça fait partie de la condition humaine, ça fait partie de la condition du vivant, mais donc de la condition humaine en général. Et c'est pour ça qu'il faut l'aimer. C'est pas parce que, moi je lis toujours cette inspiration là pour le coup spinoziste, c'est pas parce que la vie est bonne qu'il faut l'aimer. C'est dans la mesure où nous l'aimons qu'elle est bonne. Spinoza a écrit dans l'Éthique, ça n'est pas parce qu'une chose est bonne que nous la désirons, c'est parce que nous la désirons que nous la jugeons bonne. Donc la question c'est pas la vie est-elle bonne ou pas ? Question de point de vue, question d'interprétation. Allez poser la question à un biologiste, comme la science de la vie, il vous dira, alors ça, c'est pas une question biologique du tout. La biologie n'a aucun moyen de répondre à la question, la vie est-elle bonne ou non ? Mais la vraie question, c'est pas de savoir si la vie est bonne ou pas, la vraie question de savoir si nous aimons la vie ou non. Alors quand tout va bien et qu'on est un peu doué pour le bonheur, c'est facile d'aimer la vie. J'en parlais hier soir avec Eric Emmanuel Schmitt, que j'aime et que j'admire infiniment. Il nous expliquait, en gros, que pour lui, l'amour de la vie est une attitude spontanée. Il est comme ça. Bon, ça ne l'a pas empêché, d'après ce qu'il dit lui-même, de passer près du suicide vers la fin de son adolescence. Mais bon, il s'en est remis. Moi, ce n'est pas aussi évident que ça. Vous voyez, aimer la vie, il faut quand même que je fasse un peu d'effort, un peu de travail sur moi-même, comme on dit maintenant dans les milieux psy. Eh bien, voilà. Ce travail-là, c'est aussi le travail de la philosophie. Il s'agit de penser mieux pour vivre mieux. Je le dis souvent, au fond, philosopher, c'est penser sa vie et vivre sa pensée. Alors, on n'y arrive jamais complètement. Il y a toujours une part d'impensé dans toute vie et une part de non-vécu dans toute pensée. Bien sûr, un philosophe, au fond, c'est quelqu'un qui pense mieux qu'il ne vit. Il met sa puissance de pensée au service de sa faiblesse de vivre, disais-je tout à l'heure. Il pense mieux qu'il ne vit, il n'y a pas lieu de lui reprocher. Il fait ce qu'il peut, si vous voulez. Mais voilà, penser mieux pour vivre mieux, mais le but ultime, effectivement, c'est simplement, mais ce n'est pas toujours si facile que ça, c'est simplement l'amour de la vie.
On l'entend très bien dans votre propos, et c'est là ce qui a marqué une grande différence par rapport à vos contemporains quand vous avez commencé à écrire. Vos réflexions sonnaient vraiment à contre-courant parce qu'elles étaient beaucoup plus concrètes, plus en lien avec le réel, alors qu'on était dans des années où le structuralisme, où on était des choses beaucoup plus abstraites. Et vous avez ramené ce côté concret qu'on connaît chez les antiques, chez les anciens.
Oui, il y avait cette dimension-là, même si en même temps, l'abstraction fait partie de la philosophie. C'est ça qui est compliqué. La philosophie, c'est une pensée abstraite, rationnelle, rigoureuse, mais sur des objets concrets. La vie, la mort, le plaisir, la souffrance, l'amour, la haine, la société, la politique, etc. Ce qui a le plus surpris, et parfois un peu agacé mes collègues, c'est que quand on me lisait, on comprenait tout. Et ça, il faut bien reconnaître, ça a paru suspect à quelques-uns, pas à tous, fort heureusement, mais à quelques-uns, parce que la philosophie dans ces années 60-70, mais au fond ça avait déjà commencé dans les années 50 avec Sartre et la phénoménologie, la philosophie française exagérément fascinée par la tradition philosophique allemande, alors qui a sa grandeur, hein. Kant, Hegel sont des génies immenses, mais qui font une philosophie pour philosophes. Au fond, petite parenthèse, si vous prenez... Un jour, une revue m'a demandé un article sur la philosophie française. Comment parler de la philosophie française, comme ça, en 10 ou 20 pages. La seule solution, c'est de parler des plus grands livres de philosophie française. Quels sont les plus grands livres de philosophie française? Et en cherchant plutôt vers le commencement, ce que j'appelle les sommets primordiaux. Il y a trois noms, trois titres qui me sont venus, et trois seulement. Les Essais de Montaigne, les Méditations métaphysiques de Descartes, les Pensées de Blaise Pascal. Vous les lisez, vous comprenez tout, en tout cas tout l'essentiel. Avec Montaigne, vous aurez des fois un petit peu de mal parce que sa langue a vieilli. Sa langue est sublimement belle. Détroit, à mon avis, c'est le plus grand écrivain. C'est peut-être le plus grand écrivain français, mais ce n'est pas toujours facile parce que c'est de la langue du XVIe siècle. Mais sinon, on comprend tout. Vous prenez à côté les trois plus grands génies de la tradition allemande. Leibniz, Kant, Hegel. Ou si on veut citer des livres, la monadologie de Leibniz, la critique de la raison pure de Kant, la phénoménologie de l'esprit de Hegel. Trois chefs-d'œuvre absolus. Là, je ne fais pas de différence de hiérarchie entre ces différents livres. Sauf que, si vous n'êtes pas philosophe, si vous n'avez pas fait d'études de philosophie, achetez l'un de ces trois livres ou les trois, vous n'y comprendrez rien. Presque rien. Bref, vous n'irez pas au bout. Quels sont les trois plus grands livres de la tradition anglo-saxonne? Hobbes, le Léviathan, Locke, le traité sur l'entendement humain, Hume, le traité de la nature humaine. Alors là, c'est intéressant. Enfin, intéressant, c'est peut-être pas le mot. Parce que vous comprendrez à peu près tout, mais ça ne vous intéressera pas vraiment. Parce que vous allez trouver ça un peu ennuyeux, un peu plat. Alors, si on réfléchit sur ces trois traditions, encore une fois, les neuf noms que j'ai cités font partie des neuf plus grands philosophes de tous les temps. Hein, mais ce qui m'intéressait, c'est la différence dans le geste philosophant, si j'ose dire. La tradition française, elle est d'une grande clarté. La tradition anglo-saxonne aussi. La différence, c'est que Montaigne, Descartes, Pascal, ils font ce que j'appelle une philosophie à la première personne. C'est-à-dire que c'est d'eux-mêmes qu'ils parlent. Montaigne lui dit dans les essais, c'est moi que je peins. Hegel disait, ce qui, dans mon système, me ressemble est faux. C'est extraordinaire. Alors, je veux bien ce qu'il veut dire. Comme la vérité est universelle. Si ça ressemble à Monsieur Hegel, ça ne peut pas être la vérité. Sauf que Montaigne dirait exactement l'inverse. Ce qui, dans mes essais, ne me ressemble pas est faux. Les deux façons différentes de philosopher, encore une fois, c'est évidemment deux génies, mais ce n'est pas la même chose. L'immédiation métaphysique de Descartes, qu'est-ce que c'est? C'est une autobiographie intellectuelle. Le professeur Alquier, grand spécialiste de Descartes, le disait, les méditations métaphysiques de Descartes, c'est l'histoire d'un esprit. Quant à Pascal, alors il ne vous raconte pas sa vie, mais il parle de lui. Ne serait-ce que dans le mémorial dont Éric Emmanuel parlait hier soir, la nuit mystique de Pascal, la nuit de feu, comme dit Pascal, où Pascal écrit « Joie, 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 pleure de joie ». Il vous raconte quelque chose qu'il a vécu. Alors que les philosophes anglo-saxons, ils sont clairs, mais quand ils parlent du sujet, c'est jamais eux-mêmes, c'est jamais un sujet biographique, incarné. Au fond, c'est le sujet indéterminé d'une expérience quelconque. C'est pas le « je », c'est le « on », finalement. Eh bien, moi, et pas du tout, parce que c'est une hiérarchie, encore une fois, j'admire les neuf, évidemment, mais la tradition philosophique qui m'a le plus touché, qui m'importe le plus, celle que j'avais envie de continuer, c'est en effet la tradition française, celle de Montaigne, de Descartes, de Pascal. D'où des livres qui, en effet, étaient très clairs, une qualité que même ceux qui ne m'aiment pas me reconnaissent. Vous savez, c'est ce que Nietzsche, philosophe allemand, mais qui préférait les penseurs français, c'est ce que Nietzsche appelle la belle clarté française. Enfin, moi, voilà, j'ai voulu renouer avec la belle clarté française. Certains me l'ont évidemment tout empressé de me le reprocher, mais pas tous. Mais une belle clarté française que j'ai voulu, dès le départ, incarner. C'est-à-dire que j'essaye de penser à la première personne. Je veux bien que la vérité soit universelle, j'en suis même convaincu, mais d'évidence, je ne suis pas la vérité. Je suis un individu. Et donc, ce que je peux dire de vrai... Et j'essaye de dire des choses vraies, mais c'est toujours d'un certain point de vue. Voilà. Et c'est cette double singularité, une pensée plus claire que ce qui s'écrivait dans les années 70 en France, et plus subjective, plus incarnée, plus près du vécu que ce qui se faisait à l'époque, qui explique à la fois le succès de mes livres, parce que les gens ont été sensibles à une forme d'authenticité philosophante, mais qui explique aussi que ça a tellement surpris un certain nombre de mes collègues, peut-être plus encore un certain nombre de journalistes, que là encore, certains ont voulu penser que puisqu'on comprend tout, ça ne peut pas être vraiment de la bonne philosophie. C'est quand même une drôle de conception de la philosophie.
En parlant de cette distinction, les choses ont évolué dans le sens où la philosophie était l'apanage des seuls intellectuels au moment où vous avez commencé, et aujourd'hui, on le parle, les journaux en parlent, on parle de démocratisation de la philosophie. Alors j'aurais voulu savoir quel regard vous portez sur cette évolution, voire sur cet effet de mode.
La mode est dérisoire, comme toute mode, mais en même temps, ça peut dire quelque chose d'important. Alors là, il faut être nuancé. Moi, j'ai souvent cité la belle formule de Diderot, « Hâtons-nous de rendre la philosophie populaire ». Et je crois qu'il a raison. Parce qu'au fond, pour moi, la philosophie, c'est aussi la tradition des Lumières, de la raison, de la tolérance. Et si on veut combattre le fanatisme, l'obscurantisme, l'intégrisme, il faut bien sûr s'adresser à tout le monde. En même temps, il faut dire aussi que la philosophie, c'est un certain travail. Un livre de philosophie, ça ne se lit pas comme un roman. Il faut aussi que le lecteur soit prêt à faire un certain nombre d'efforts. Si bien que il m'arrive d'être des fois un peu perplexe devant des livres de philosophie qui font un peu l'économie de ce travail-là. Voyez, ne confondons pas la clarté avec la facilité ou la superficialité. La difficulté de ce que j'essaye de faire, mais je ne suis pas seul, mes amis Luc Ferry, Alexandre Jolien, Michel Onfray, Vétan Todorov font pareil, voyez. Mais la difficulté, c'est de conjoindre le sérieux de l'argumentation, la rigueur de la pensée, la précision des références, avec la plus grande clarté possible. Et puis, il y a autre chose. C'est que des fois, un certain nombre de ces livres, pas tous, mais confondent un peu la philosophie et le développement personnel. Alors, j'ai rien contre le développement personnel qui, d'évidence, aide des gens. Sauf que ce n'est pas la même chose que la philosophie. Je me souviens d'un débat que j'ai fait avec Christophe André, psychiatre, homme délicieux, c'est un très cher ami pour moi, mais qui fait justement des livres qui rentrent dans de bons livres, qui rentrent dans le cadre du développement personnel. Et un jour, on était invité sur je ne sais plus quelle scène de télévision à débattre ensemble, et j'expliquais ce que je crois vrai. Que bien sûr, le philosophe, il peut chercher le bonheur comme tout le monde préfère être heureux que malheureux. Mais que la singularité de la philosophie, c'est que le philosophe, il met la vérité plus haut que le bonheur. Autrement dit, je dis souvent, le bonheur est le but, la vérité est la norme. Le but d'une activité, c'est ce vers quoi elle tend. Sa norme, c'est ce à quoi elle se soumet. Quand je dis que le bonheur est le but de la philosophie, mais qu'il n'est pas sa norme, c'est parce que la seule norme de la philosophie, comme de toute pensée digne de ce nom, c'est la vérité. La vérité au moins possible, ce que j'appelle avec Spinoza la norme de l'idée vraie donnée ou possible. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si le philosophe, alors pas seulement le philosophe que je suis, mais le philosophe que vous êtes tous appelés à être, si philosopher c'est penser sa vie et vivre sa pensée, tout le monde peut et doit être philosophe. Ça veut dire que si le philosophe a le choix entre une vérité et un bonheur, il n'est philosophe qu'en tant qu'il choisit la vérité. Mieux vaut une vraie tristesse qu'une fausse joie. Autrement dit, la philosophie n'est ni un antalgique, ni un euphorisant. Et j'avais dit ça à la télé, devant mon ami Christophe André. Et Christophe prend la parole et dit, mais pour un psychiatre, c'est un petit peu différent. Je le comprends bien, bien sûr. Que pour un psychiatre, un faux bonheur peut valoir mieux à tout prendre qu'une vraie tristesse, surtout quand la vraie tristesse peut, à la limite, vous tuer. Il a des patients, Christophe, qui sont éventuellement suicidaires. Il faut bien les aider. Et donc, ça peut avoir sa légitimité thérapeutique, ça peut avoir sa légitimité dans la vie quotidienne. Je ne suis pas contre le développement personnel, mais d'évidence, ce n'est pas de la philosophie. Alors que certains des livres que vous évoquez, outre une facilité des fois telle qu'au fond, c'est moins de la pensée que des bons sentiments, ont tendance à privilégier le bonheur plus que la vérité, à la limite à préférer un faux bonheur à une vraie tristesse. Et là, me semble-t-il, c'est une question vraiment importante. La philosophie, c'est d'abord essayer de penser quelque chose qui vous paraît vrai. Encore une fois, on n'est jamais certain de cette vérité, on ne la connaît jamais toute, jamais absolument, mais voilà, maximum de bonheur dans le maximum de lucidité. Ça veut dire que ne confondons pas la philosophie avec la méthode Coué, qui est peut-être la première version du développement personnel. La méthode Coué, c'est quoi? Du docteur Coué, c'est un thérapeute, je ne reproche pas, l'artiste est très simple. Vous répétez tous les matins, voire toutes les deux heures, alors je ne sais plus la phrase exacte, mais c'est chaque jour, à chaque heure de chaque jour, je me porte de mieux en mieux. Je veux bien que ça aide. Vous regardez dans la glace, vous vous dites, je suis un type formidable. Ça peut aider, mais ça, ce n'est pas de la philosophie. Et donc, faire de la philosophie, il faut essayer d'être clair, d'être précis, d'être rigoureux, d'être lisible par le grand public. Hâtons-nous de rendre la philosophie populaire, c'est ce que j'essaye de faire. Mais ne transigeons pas sur le sérieux de la pensée, ni sur l'idée que la norme de la pensée, ça n'est pas le bonheur, c'est la vérité. C'est pas parce qu'une idée me rend heureux que je dois la penser. Ça, c'est la méthode Coué. Je dois penser une idée parce qu'elle me paraît vraie. Dans un second temps, à moi, face à cette vérité au moins possible, d'essayer d'en tirer un certain bonheur. Et c'est ça le geste philosophique, et c'est en quoi la philosophie ne se réduit pas au développement personnel.
Un autre problème avec cette médiatisation des philosophes, aujourd'hui ils sont invités comme experts sur tous les plateaux de télévision, sur n'importe quel sujet. Un autre écueil, c'est la simplification. Comment est-ce que vous-même vous arrivez à jouer le jeu tout en étant présent et en même temps veiller à ne pas tomber dans la simplification?
C'est la simplification, mais c'est aussi autre chose. C'est que la plupart des journalistes, quand ils invitent un philosophe, c'est pour parler de toute autre chose que de philosophie. Vous faites un débat sur le chômage, alors il y a des économistes, un sociologue, alors ça serait bien s'il y avait un philosophe. Vous faites un débat sur ce qu'il faut faire en Irak, en Syrie, est-ce qu'il faut faire la guerre ou pas, rappelez-vous l'épisode BHL, s'agissant de la Libye en l'occurrence, alors ça serait bien qu'il y ait un philosophe pour dire son avis. Mais quelle compétence j'ai pour proposer un remède contre le chômage ou pour savoir ce qu'il faut faire contre Daesh ou contre Assad, si vous voulez. C'est pas ma compétence. Alors, je reproche pas aux philosophes ou intellectuels, mais c'est souvent des philosophes, qui interviennent sur tous les fronts géopolitiques. Le paradoxe, prenez des gens comme Bernard-Henri Lévy ou André Glucksmann, et j'ai une sincère estime pour l'un des deux. Et je n'ai pas de mépris. Je n'ai pas de mépris pour l'autre. Voilà. Mais au fond, le paradoxe, c'est que ceux qui suivent l'actualité à peu près, on connaît très bien leur position géopolitique. Qu'est-ce qu'ils ont dit sur la première guerre en Irak? Qu'est-ce qu'ils ont dit sur la deuxième guerre en Irak? Qu'est-ce qu'ils ont dit sur la Libye? Qu'est-ce qu'ils disent maintenant sur la Syrie, etc. Sur l'Albanie, sur le Kosovo, sur l'ex-Yougoslavie. On pourrait noter par écrit toutes leurs positions. Et si je vous interroge sur la philosophie d'André Glucksmann ou de Bernard-Henri Lévy, ben vous auriez beaucoup plus de mal à répondre. Autrement dit, ils ont pris le risque, alors ils ont le droit, chacun a son chemin, mais de se faire connaître plutôt comme spécialiste de géopolitique que comme philosophe. Moi, ce n'est pas ma compétence et ce n'est pas ma tasse de thé. Et comme en plus, alors certains, là je ne donnerai pas de nom propre, mais ont tendance au fond à donner des leçons de morale au monde entier en permanence. Comme si le but d'un philosophe était de dire le bien et le mal. Mais c'est absurde. Sur le bien et le mal, vous savez autant que moi, par définition. Kant, qui est peut-être le plus grand penseur de la morale, n'a arrêté de dire que sur la morale, chacun en sait assez, en vérité. Non, le but du philosophe, c'est pas dire le bien et le mal, c'est d'essayer de dire le vrai et le faux. Mais ça intéresse beaucoup moins les journalistes. Je vous raconte une anecdote qui m'avait frappé pendant la guerre dans l'ex-Yougoslavie. Il y avait eu un massacre dans un marché au Kosovo, me semble-t-il. Une bombe avait explosé dans un marché rempli de foule. Il y avait des dizaines de morts. Et puis, à la même époque, au même endroit, il y avait des épurations techniques. On violait des femmes, etc. Il y a un journaliste qui m'appelle pour une émission de radio ou de télé, je ne sais plus. Il me dit, vous avez vu là, au Kosovo, ce massacre, l'épuration ethnique, les viols, etc. Il me dit, on a bien besoin d'un philosophe pour savoir ce qu'il faut en penser. Je lui dis, mais vous avez besoin d'un philosophe pour vous dire que c'est atroce. C'est absurde, évidemment. Chacun sait bien que c'est atroce. La vraie question pendant la guerre dans l'ex-Yougoslavie, c'était pas de savoir est-ce que les viols, c'est bien ou mal, est-ce que les massacres, c'est bien ou mal. C'était de savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Et notamment, est-ce qu'on intervient militairement dans l'ex-Yougoslavie, quand je dis on, c'est l'Occident, l'Europe, la France, etc. Ou est-ce qu'on se contente d'un boycott? Rappelez-vous, à l'époque, c'était à l'alternative. Soit on se contente d'un boycott, soit on fait la guerre. Eh bien, moi, je n'avais pas de compétences pour dire laquelle des deux solutions était la meilleure. Et donc, j'ai refusé de prendre position. Alors, à l'époque, on m'avait demandé un article dans Le Monde, je l'avais écrit. Non, c'était pas pour, c'était pour la première guerre en Irak, là, l'article dans Le Monde. Mais c'est un peu le même cas de figure. Donc, il y a la guerre. Donc, l'Irak envahit le Koweït, l'Occident fait la guerre à l'Irak. On me demande un article dans Le Monde. J'essaye de reconstituer les arguments des uns, ceux qui étaient pour l'intervention militaire en Irak, les arguments des autres, ceux qui étaient contre, ce que la plupart ne font jamais. Ce qui me frappe, ce n'est pas qu'on soit pour ou contre l'intervention en Irak, et si je repense aux intellectuels à l'époque, je vois très bien les positions des uns et des autres, mais c'est qu'ils étaient tellement convaincus d'avoir raison qu'ils donnaient le sentiment que la position des autres ne pouvait être qu'une sottise incroyable ou une faute morale. Il n'y a pas de raison de penser ça. Si des gens intelligents, de bonne foi, ne sont pas d'accord, c'est que le problème est très difficile. Donc moi, je fais mon article. Je résume l'essentiel des arguments des uns pour l'intervention en Irak, les arguments essentiels des autres contre l'intervention en Irak. Et je conclus que les arguments sont forts d'un côté et de l'autre. Je me sens incapable de trancher. Bref, je fais état de ma perplexité. Un de mes amis me dit, on n'écrit pas un article pour dire qu'on est perplexe. Non mais, je lui ai dit, t'as peut-être raison. Et depuis, en gros, je n'ai plus fait d'articles de ce genre. Il m'arrive, j'écris très régulièrement dans la presse, mais de préférence sur des sujets de philosophie. Et quand j'interviens sur un sujet politique, c'est que je ne suis pas complètement perplexe. Je crois voir vers où il faudrait aller, auquel cas je le dis. Vous voyez. Mais autrement dit, moi, mon métier, c'est de faire de la philosophie. Et c'est pourquoi je ne me définis pas comme intellectuel engagé. Je me définis comme intellectuel citoyen. J'entends par là qu'un intellectuel engagé, l'archétype, c'est Jean-Paul Sartre, très grand philosophe, hein, par ailleurs, mais au fond, un intellectuel engagé, c'est quelqu'un qui soumet sa pensée ou qui met sa pensée au service d'une cause déjà constituée par ailleurs. Jean-Paul Sartre, compagnon de route du Parti communiste dans les années 50, par exemple. Mais si l'intellectuel, le philosophe en l'occurrence, met sa pensée au service d'une cause déjà constituée par ailleurs, il y a tout lieu de craindre qu'il n'y perde un peu de lucidité, un peu de liberté ou d'honnêteté intellectuelle. Et dans le cas de Sartre, malheureusement, c'est souvent ce qui s'est passé. Alors qu'un intellectuel citoyen, ce que j'essaye d'être, c'est pas un intellectuel qui soumet sa pensée à une cause déjà constituée par ailleurs, c'est un intellectuel qui essaye de participer au débat public, dans la limite de ses compétences, et sans prétendre détenir à lui seul le monopole ni de la vérité, ni encore moins du bien ou de la vertu. Alors c'est vrai que du coup, je passe pour un peu modéré, un peu prudent. Bah oui, parce que comme les gens me lisent, j'essaye d'éviter de dire trop d'âneries, et surtout sur ce ton grand seigneur que certains affectionnent.
Comment est-ce que vous comprenez cette attente qu'on a aujourd'hui envers les philosophes, comme si on essayait de s'accrocher à eux, parce que là, on a perdu les grandes idéologies, le monde est de plus en plus, dans nos contrées en tout cas, athée. Est-ce qu'on essaie de se raccrocher à la philosophie parce qu'on est complètement perdu ?
En partie, et ça explique la mode de la philosophie que vous évoquez. Alors, encore une fois, toute mode est dérisoire, la mode, c'est ce qui se démode, comme chacun sait. Mais parfois, une mode peut révéler un phénomène de société. Alors, l'expression « mode de la philosophie », elle a commencé en 1995. Je suis bien placé pour m'en souvenir, parce qu'il y avait deux livres qui ont servi de déclencheur à cette mode. C'était d'un côté « Mon petit traité des grandes vertus » que vous avez évoqué, et de l'autre « Le monde de Sophie » de Jostein Gaarder, philosophe norvégien, en tout cas scandinave, mais je crois norvégien en l'occurrence, qui est d'ailleurs un bon livre. Le livre « Le monde de Sophie », un livre vraiment d'initiation à la philosophie, mais vraiment bien fait. Alors, les deux livres ont un succès invraisemblable. Et la simultanéité de ces deux succès a fait que nos journalistes se sont dit « ben voilà, la philosophie est à la mode ». Ce qui me frappe, c'est que c'était il y a 20 ans, et qu'on parle encore de la mode de la philosophie. Donc une mode qui dure 20 ans, déjà, c'est un peu plus qu'une mode. Mais depuis cette année-là, effectivement, on m'a souvent interrogé sur pourquoi cette mode de la philosophie, pourquoi ce succès de la philosophie. Et je crois, en effet, d'abord, le plus étonnant, c'est pas la mode de la philosophie. Le plus étonnant, c'est la pérennité, pendant 25 siècles, d'une activité à l'efficacité technique à peu près nulle, au contenu de vérité toujours incertain, discipline plutôt austère. Voyez, depuis 25 siècles, ça n'a jamais disparu. C'est ça le phénomène majeur. Mais c'est vrai que depuis 20 ans, la philosophie a plus de succès qu'auparavant. Et je crois qu'en effet, ça s'explique pour une bonne part par le désarroi que nos contemporains ressentent devant l'effondrement des réponses toutes faites. Parce qu'au fond, philosopher, c'est chercher à trouver ses propres réponses à un certain nombre de questions fondamentales que l'on se pose. Mais donc, il n'y a de sens à philosopher que lorsqu'on n'a pas le sentiment de détenir déjà toutes les réponses. Or, c'est vrai que pendant un certain nombre de siècles, les réponses étaient apportées par les grandes religions, par le christianisme dans nos pays. Pendant un certain nombre de décennies, les réponses toutes faites étaient apportées par les grandes idéologies. Pensez au poids du marxisme dans les années 50-60. Et puis après, dans les années 70 notamment, les réponses toutes faites ou qu'on croyait toutes faites étaient apportées par les sciences humaines. Les livres qui marchaient chez Pivot dans les années 70, c'était des livres de psychologie, de psychanalyse encore plus, de sociologie, d'ethnologie, d'histoire. Parce qu'on avait le sentiment que les sciences humaines allaient répondre aux questions qu'on se pose sur notre vie. Contresens sur les sciences humaines, qui sont très respectables, très utiles. Vous savez ce que disait Freud avec ce mélange de lucidité et parfois d'humour qu'il caractérise. Freud écrit quelque part « La psychanalyse, ça ne sert pas à être heureux ». La psychanalyse, disait Freud, ça sert à passer d'une souffrance névrotique à un malheur banal. C'est extraordinaire, ça. Et je crois qu'il a raison. Je ne dis pas ça contre la psychanalyse. Hein. Il faudrait tout ignorer de la souffrance névrotique pour ne pas voir le progrès considérable que c'est que de passer d'une souffrance névrotique à un malheur banal. Ça s'appelle guérir, en gros. Sauf que, du même coup, la question qui se pose, c'est oui, mais une fois qu'on est guéri ou une fois qu'on n'est pas malade, tout le monde n'est pas malade ou pas gravement. Bref, une fois qu'on est dans le malheur banal, qu'est-ce qu'on fait? La réponse, on fait de la philosophie. C'est pourquoi il m'arrive de dire que la philosophie commence là où la psychothérapie s'arrête. Et donc, c'était un contresens que d'espérer que la psychanalyse, l'ethnologie, la sociologie, l'histoire allaient répondre aux questions que vous posez sur le sens de la vie, sur la mort, la liberté, la justice, le bonheur, Dieu, que sais-je. Elles ne répondent pas. Si bien que dans ce triple déclin successif, des réponses toutes faites apportées par les grandes religions, puis des réponses toutes faites apportées par les grandes idéologies, puis enfin des réponses qu'on croyait toutes faites apportées par les sciences humaines, nos concitoyens, nos contemporains découvrent qu'ils n'ont plus de réponse toute faite, d'où en effet un assez grand désarroi, mais du même coup le souci de chercher ses propres réponses. Plutôt, là après, c'est là où la mode intervient, plutôt que de chercher des réponses toutes faites chez tel ou tel philosophe. Parce que ça peut exister aussi, hein, le côté philosophe-gourou qui va vous dispenser de réfléchir. C'est un contresens sur la philosophie. Moi, je dis souvent, le philosophe n'est pas la femme de ménage de l'esprit ou l'homme de ménage de l'esprit. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là que si vous embauchez une femme de ménage ou un homme de ménage, c'est pour quelle raison? C'est pour ne pas faire le ménage vous-même. Ah oui, c'est à ça que ça sert. Eh bien, ça serait un contresens total que de croire qu'on va lire un philosophe pour n'avoir pas à philosopher soi-même. C'est tout le contraire. Lire un philosophe n'a de sens que parce que ça peut vous aider à philosopher vous-même. Autrement dit, il ne s'agit pas de lire les philosophes pour chercher des réponses toutes faites comme on en trouvait auparavant dans les religions, les idéologies ou les sciences humaines. Il s'agit de lire un philosophe et si possible d'en lire plusieurs pour voir différents sons de cloche afin de mieux réfléchir soi-même, afin de mieux poser et parfois de mieux résoudre les problèmes que l'on se pose.
Alors votre explication est claire, mais dans les faits, est-ce qu'il n'y a pas un risque aujourd'hui que certaines pensées, certaines philosophies deviennent aussi des idéologies? Pas tout le monde a la capacité de réfléchir sur ces sujets.
Il peut toujours y avoir un risque, spécialement chez les disciples, si vous voulez. C'est-à-dire, souvent, les disciples sont pires que les maîtres. Hein. Vous prenez Lacan, déjà, lui, j'ai du mal à le supporter, mais les lacaniens, c'est vraiment insupportable. Derrida était un homme charmant, très intelligent, très cultivé. C'est pas ma tasse de thé en philosophie, mais ce type est à la fois très sympathique et très estimable, évidemment. T'as été mon prof, Rudul. Mais les Derridiens, là, jamais pu les supporter non plus. Et donc, il m'arrive de recevoir des lettres de disciples, des lettres de Michel Onfray, qui m'expliquent que je suis vraiment un nul parce qu'il y a Confray qui compte. Malheureusement, j'ai beaucoup de lettres d'Onfray qui sont très amicales et très admiratives. Mais voyez ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément la faute des philosophes si tel ou tel vous dit Durand, du Schmock a résolu tous les problèmes. Et en l'occurrence, je crois qu'on est un peu préservé de ça, alors sauf dogmatisme particulier de tel ou tel disciple. D'abord, parce que l'avantage des philosophes, c'est qu'ils sont jamais d'accord entre eux. Et donc, ce que va dire l'un sera toujours contrebalancé par les autres. J'ai l'air de le dire comme si c'était une faiblesse de la philosophie, je n'en crois rien. On dit souvent qu'il y a autant de philosophies différentes qu'il y a de philosophes différents. Ce n'est pas tout à fait faux. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a des courants, des écoles, mais ce n'est pas tout à fait faux. Sauf qu'on aurait tort d'en conclure qu'il ne faut pas philosopher. C'est justement parce qu'il y a à peu près autant de philosophies différentes qu'il y a de philosophes différents que vous devez philosopher vous-même. Parce qu'à l'inverse, c'est justement parce qu'il n'y a pas autant de mathématiques différentes qu'il y a de mathématiciens différents que je n'ai aucune raison de faire des mathématiques moi-même. Je n'ai aucune raison de faire de la physique ou de la biologie moi-même. Parce qu'imaginez que je bosse pendant 30 ans comme un malade, dans le meilleur des cas, je dirais au bout du compte la même chose que tous les physiciens, les biologistes ou les matheux compétents, et si je découvre parfois quelque chose, une nouveauté, je vais découvrir quelque chose qu'on aurait découvert sans moi 6 mois plus tard. Un de mes amis mathématiciens m'explique qu'il travaille beaucoup parce qu'il faut publier très vite. parce que sinon, si tu publies pas très vite, quelqu'un va publier 15 jours avant toi le résultat que toi, tu étais en train de découvrir. Je lui ai répondu, écoute, tu es en train de m'expliquer que tu vas bosser comme un fou pendant 40 ans pour gagner 15 jours. Et ça me paraît totalement dérisoire. Donc, comme... Alors, je ne reproche pas ça aux sciences. Hein. Il n'y a pas de saut métier. Celui qui aime des mathématiques et qui est bon en mathématiques aurait bien tort de ne pas en faire. Il faut bien gagner sa vie. Puis, il y en a qui aiment ça, si vous les voyez. Mais je n'ai aucune raison de faire des mathématiques moi-même. Je n'ai aucune raison de faire de la biologie ou de la physique moi-même. Alors que j'ai toutes les raisons du monde de faire de la philosophie moi-même, parce que justement, les philosophes ne sont pas d'accord entre eux. Donc, il faut bien que je choisisse lequel va me paraître le plus juste, le plus vrai, le plus éclairant. Et alors, par chance, aujourd'hui, vous avez des philosophes extrêmement différents. C'est-à-dire, moi, j'ai 63 ans, si je compare à ma jeunesse, c'est peut-être la première époque, peut-être depuis le début du XXe siècle, où il n'y a pas un ou deux courants majeurs. En gros, dans les années 20-30, vous aviez le choix entre Alain et Bergson. Dans les années 50, au fond, l'existentialisme régnait en maître. Dans les années 60, vous aviez le choix entre l'existentialisme ou bien le structuralisme. Aujourd'hui, il n'y a plus comme ça deux grandes écoles ou trois grandes écoles. Il y a 5, 10, 15, 20 philosophes estimables, intéressants, inégalement intéressants, mais qui sont de bons philosophes. Et du même coup, le risque d'en prendre un comme gourou, comme maître à penser, est moins grand. Là, certains le font, hein, mais c'est que vraiment, il était porté au dogmatisme. Parce que la scène philosophique en France, spécialement aujourd'hui, mais c'est vrai aussi d'ailleurs à l'échelle du monde, est quand même extrêmement ouverte, extrêmement diversifiée, et avec en plus, je dirais, un climat intellectuel qui me paraît plutôt plus satisfaisant que précédemment. Alors, là, je ne parle pas là du talent des uns ou des autres. Hein. Deleuze, Derrida, Althusser, Foucault sont d'admirables penseurs. Hein. Mais à l'époque, quand même, il y avait une espèce de chape de plomb idéologique qui pesait un peu dans les années 70, en gros, hors du structuralisme, pas de salut, si vous voulez. Bon. Pareil, du temps de l'existentialisme. Et puis, rappelez-vous la polémique entre Sartre et Camus. Sartre a été odieux, si vous voulez. Il faut bien le reconnaître, malgré tout. Vous voyez. Alors qu'aujourd'hui, sincèrement, les rapports que nous avons entre nous, alors tous ne sont pas mes amis, mais beaucoup sont mes amis, sont des rapports respectueux, courtois, assez souvent amicaux, voyez, y compris avec les universitaires. C'est-à-dire que moi, je me sens très, très à l'aise, en vérité, dans le milieu philosophique français. Hein. J'étais parfois, encore une fois, c'est moins vrai aujourd'hui, mais c'était le cas il y a une dizaine d'années, un peu l'objet d'attaques un peu bébêtes ou injustes de la part de la presse. Mais de la part des collègues, non, d'ailleurs, ils m'ont élu maître de conf à la Sorbonne, j'ai quand même tort de me plaindre. Voilà, et donc, ne cherchez pas un maître à penser. Ne cherchez pas un gourou. La philosophie est une, mais les philosophes sont pluriels. Les philosophies sont plurielles. Et je crois qu'aimer vraiment la philosophie, bah, c'est prendre le temps de confronter différentes pensées dans le but de nourrir ou d'éclairer la vôtre.
Quel est le rôle des philosophes dans la société civile ? Là, je sais que vous êtes membre du Comité consultatif national d'éthique. Alors justement, est-ce que vous êtes plusieurs philosophes ? Parce que comme vous avez chacun des pensées très différentes...
Oui, on est plusieurs philosophes. Alors d'abord, le Comité consultatif national d'éthique, c'est une institution de la République créée par François Mitterrand, qui est un comité consultatif. Ça veut dire qu'on n'y prend aucune décision. On est là pour éclairer ceux qui auront à prendre nos décisions. Les politiques, le gouvernement, le Parlement. Et la loi stipule qu'il y a 40 membres dans ce comité d'éthique qui doivent être impérativement de différentes formations, de différentes disciplines. En pratique, il y a évidemment beaucoup de scientifiques, surtout beaucoup de médecins. Peut-être un peu trop, pour une raison que la loi n'avait pas prévue, c'est que un certain nombre de corps constitués doivent envoyer quelqu'un, déléguer quelqu'un comme comité d'éthique. Par exemple, l'Académie française. Mais l'Académie française aura tendance à envoyer un médecin académicien. Pareil, les grandes familles spirituelles sont représentées, mais des fois, on a tendance à prendre un protestant qui est médecin, un juif qui est médecin, un chrétien qui est médecin, etc. Donc, il y a un peu une surreprésentation du corps médical, mais malgré tout, il n'y a pas que... Les autres corporations, là, il y a de purs scientifiques, notamment Jean-Claude Amezen, qui est le très talentueux et très sympathique président du comité d'éthique en ce moment. Et puis je dirais, il y a des personnalités de la société civile, représentants d'associations qui travaillent dans l'humanitaire, etc. Et puis surtout, les deux corporations intellectuelles, après les médecins les plus représentées, c'est des juristes et c'est des philosophes. On doit être, je pense, 4 ou 5 philosophes, c'est à peu près 1/10 du comité d'éthique. Et c'est une vraie richesse que cette confrontation de deux points de vue différents. Vous voyez, prendre le temps de débattre sur des sujets difficiles qui sont des sujets de bioéthique, hein, les mères porteuses, il y a eu un rapport sur les grèves de visage, la recherche médicale, etc., les manipulations génétiques. Confronter les points de vue de médecins, de scientifiques, d'associatifs, de juristes, de philosophes, je crois que c'est une vraie richesse. Donc c'est assez lourd, hein, on n'est bien sûr pas payé pour ça, c'est bénévole, c'est lourd parce que à 40, le premier tour de table dure en gros 2 heures. Hein. Ça veut dire que, au comité d'éthique, on passe beaucoup plus de temps à écouter qu'à parler, forcément, à 40. Et je dirais que pour le philosophe, de ce point de vue, c'est une leçon d'humilité. Hein. Et on n'en a jamais trop. J'ajoute, moi, une chose qui m'a fasciné, c'est les juristes. Vous voyez, parce que les médecins, je les connais bien depuis longtemps. J'ai fait beaucoup de conférences dans le monde médical. Ils sont souvent formidables, très intelligents, mais quand même d'un empirisme à peu près indépassable. C'est-à-dire que l'idée de concept a du mal à germer dans leur esprit. Donc c'est une pensée très estimable, très intelligente, mais vraiment au ras du concret. En gros, ils vous disent, moi, ma clinique, mes patients, mes malades, etc. Alors que j'ai découvert chez les juristes, que j'avais beaucoup moins fréquenté, une intelligence extraordinaire, une capacité d'abstraction extraordinaire, une rigueur extraordinaire, et pas du tout la nôtre, celle des philosophes. Et c'est vrai que pour moi, découvrir l'intelligence juridique à l'œuvre, ça a été tout à fait passionnant. J'ai vu des débats au comité d'éthique de très haut niveau entre juristes, qui, même si on n'était pas d'accord entre eux, ça fait partie du lot, mais qui étaient intellectuellement fascinants. Voilà, donc, moi j'y suis depuis 7 ans, je crois, j'ai encore un an à faire, parce qu'on a droit à 2 mandats successifs de 4 ans chacun. Honnêtement, je suis un peu hâte de le quitter parce que c'est quand même très lourd en prise de temps, quoi. Mais ça a été une très belle expérience. Voilà, donc là, c'est typiquement un cas d'intellectuel, en l'occurrence moi, philosophe, qui assume son rôle de citoyen. Parce qu'au fond, c'est très bien que les politiques, avant de voter une loi sur les mères porteuses ou les manipulations génétiques, prennent le temps d'écouter des gens de bonne foi, intelligents, qui ont pris le temps d'y réfléchir et d'en parler entre eux.
Vous avez parlé tout à l'heure la distinction entre intellectuel engagé ou intellectuel qui prend son rôle de citoyen à cœur. Là, aujourd'hui, il y a un gros problème en Europe, c'est la question des migrants. Et c'est vrai que beaucoup s'étonnent du silence des intellectuels sur le sujet. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Écoutez, moi j'étais à une télévision là, avant-hier, je crois, cette télévision internationale, TV5 Monde, donc diffusée dans le monde entier, mais en français. Ils m'ont interrogé sur la photo de ce malheureux enfant. Je lui ai dit, écoute, il m'a dit, est-ce que je peux vous interroger là-dessus ? Je lui ai dit, vous pouvez, mais forcément, on va d'abord dire des banalités. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la photo de cet enfant ? D'abord, c'est atroce. C'est d'une injustice insupportable, on est tous bouleversés, bon, très bien. Il faut le dire, mais... Deuxièmement, c'est un enfant. Et c'est très étonnant que dans les centaines de morts qui ont été créées par ces horreurs, c'est parce que c'est un enfant. Ça confirme une chose que je crois très importante, c'est que les enfants sont la chose du monde la plus fragile et la plus précieuse. Ça confirme que toutes les vies ne se valent pas. Moi, je suis convaincu, comme tout le monde, que tous les êtres humains sont égaux en droit et en dignité, oui, mais toutes les vies ne se valent pas. Parce que la vie d'un enfant, par définition, est plus précieuse que la vie d'un vieillard ou d'un homme de 63 ans, ce qui est mon cas. Troisième observation, c'est une photo. C'est pas, tant s'en faut, le premier enfant qui meurt, y compris chez les migrants. Oui. Mais tout d'un coup, il y a une photo et ça bouleverse le monde entier. Alors tant mieux si cette photo pousse les États européens à être un peu moins égoïstes, un peu plus généreux, mais en même temps, ne mesurons pas l'importance d'un événement à la présence ou non d'une image. Voyez. Ce bouleversement évoque aussi la médiatisation télévisuelle de notre société. Quatrième observation, ça confirme quand même ces horreurs, pas le petit enfant là, mais ces migrants, que l'Europe est un pays enviable. Et vu de France, je crois que c'est moins vrai en Suisse, mais où les gens n'arrêtent pas de taper sur l'Europe en général, y compris sur la France en particulier, comme si on vivait vraiment dans des pays atroces, il est quand même bon de constater qu'il y a des millions de gens qui sont prêts à risquer leur vie pour venir vivre chez nous. Je les comprends tout à fait, ces millions de gens. Mais du même coup, il faudrait peut-être que les Européens arrêtent de s'auto-flageller en permanence et de considérer que l'Europe, là, la communauté européenne, pour ce qui est des Français, serait la pire des choses. Cinquième et dernière observation, sincèrement, je n'aimerais pas être à la place de François Hollande et d'Angela Merkel. Leur boulot est extrêmement difficile. Parce que d'un côté, il y a l'exigence morale, on ne peut pas laisser les gens se noyer comme ça. Mais de l'autre, il y a la politique. C'est-à-dire deux choses. Un, l'intérêt de l'Europe. On ne peut pas dire que d'un coup, l'intérêt de la France, on s'en fout, on va s'occuper que des migrants. François Hollande n'a pas été élu pour ça. Surtout dans des pays, c'est encore plus vrai en Europe centrale et orientale, où les gens ne veulent plus du tout d'immigration. Et puis, il y a l'efficacité. La vraie question, là encore, c'est est-ce qu'on va aller rétablir l'ordre en Syrie, en Irak et en Libye pour éviter ce flot continu de migrants? Eh bien, je vais vous dire, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Et je suis très content de ne pas être président de la République. Alors, en l'occurrence, j'ai parlé d'Angela Merkel et de François Hollande. J'ai de l'estime et du respect pour l'une et l'autre. Et donc, moi, je m'interdis, là encore, de leur faire des leçons de morale en permanence. J'étais content de voir qu'ils disaient, comme tout le monde, chacun sait qu'il peut y avoir de bonnes solutions qu'européennes. J'étais content de voir qu'Angela Merkel, comme François Hollande, est d'accord ensemble, essaye d'aller vers une solution européenne qui permettrait d'aider ces malheureux migrants de sauver des vies, tout en maintenant, évidemment, parce que c'est inévitable, un certain contrôle de l'immigration. Mais voilà, c'est un bon exemple où, sincèrement, je n'ai pas de compétences particulières sur ces questions. Il y a des milliers de gens en France ou en Suisse qui connaissent beaucoup mieux que moi ces problèmes. Je prends acte de l'horreur, je prends acte du fait que l'Europe est un continent enviable et envié, je prends acte du fait qu'il faut une solution européenne. Je suis content de voir qu'Angela Merkel et François Hollande tendent dans cette direction, mais je m'interdirai de leur faire la leçon.
On est en train d'accoster, mais si... est-ce que je donne encore la parole pour une autre question?
Moi, j'ai du temps, donc...
C'est pas tous les jours qu'on a un philosophe... Oui, monsieur.
Alors, je le pose la question. Donc, j'ai envie de poser une question qui a été soulevée l'année dernière, sur le même bateau, à la même table, où était assis un de vos collègues, des compatriotes, et une autre dame. Concernant la question était suivante. Est-ce qu'on peut philosopher, ou on peut faire la philosophie uniquement une fois qu'on a acquis les bases de la philosophie, ou n'importe qui, si monsieur tout le monde ou madame tout le monde, peut faire la philosophie à son niveau?
On peut philosopher tout seul. Moi, au fond, quand j'avais 14 ans, l'un des premiers textes que j'ai écrit s'appelait « Le royaume de Dieu ». À l'époque, j'étais chrétien. C'était un texte de philosophie. Je pense que c'était absolument nul. Mais parce que j'avais 14 ans, parce que j'ignorais tout, justement, de la philosophie. Autrement dit, on peut philosopher tout seul, mais beaucoup moins bien que si on prend le temps de lire les grands philosophes du passé. Mais ça vaut de toute discipline intellectuelle ou artistique. Vous savez ce que disait André Malraux ? C'est dans les musées qu'on apprend à peindre. On peut peindre tout seul. Vos enfants, à 5 ans, vous leur donnez des crayons, des feutres, ils dessinent, ils peuvent faire de la peinture. Mais celui qui ignorerait tout de l'histoire de la peinture a toute chance d'être un très mauvais peintre. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut passer sa vie à faire des copies. Mais quand Malraux dit que c'est dans les musées qu'on apprend à peindre, c'est que tous les grands peintres, du temps où il y avait des grands peintres, tous les grands peintres ont commencé par faire des copies pendant des heures, des jours, des semaines, des années, pour acquérir les bas du métier. Il y a encore de très bons peintres, mais c'est quand même pas Rembrandt ou Velázquez, et c'est pas ceux dont on nous parle dans les journaux. Peut-être un autre débat, mais j'en parle. Il y a un chapitre sur l'art contemporain dans mon bouquin, je vous y renvoie. Eh bien, de même que c'est dans les musées qu'on apprend à peindre, c'est dans les livres de philosophie qu'on apprend à philosopher. Et donc, oui, on peut philosopher comme ça, je dirais, à brûle-pourpoint, mais forcément, ça va être un peu simplet, si j'ose dire. Ça a toute chance d'être un peu bébête, alors, sauf génie très particulier. Au début du Tractatus Logico-Philosophicus, Wittgenstein explique en substance, je cite de mémoire, mais qu'il a lu à peu près aucun livre de philosophie, qu'il s'en fout, parce que ce qui l'intéresse, c'est pas ce que pensent les autres, c'est ce qu'il pense lui. En toute rigueur intellectuelle, il a raison. Il se trouve, que ce n'était pas tout à fait vrai, il avait beaucoup lu Frege et Russell, ce qui n'est quand même pas rien, parce qu'eux avaient lu les autres philosophes, et puis deux, Wittgenstein est une espèce de génie absolu, si vous voulez. Mais en règle générale, voilà, il vaut mieux prendre le temps de lire les philosophes. Autrement dit, philosopher, c'est penser par soi-même, oui, mais ce n'est pas penser tout seul. Parce que si on pense tout seul, le plus vraisemblable, c'est qu'on pense mal. Et donc voilà, donc il y a ce travail à faire de lire les grands philosophes, surtout d'abord ceux du passé, et en commençant par les plus faciles. Vous voyez, c'est pour ça que j'évoquais Montaigne, Descartes, Pascal, c'est des gens que vous pouvez lire. Vous voyez. Voilà, mais il y en a évidemment d'autres. Vous voyez, mais celui qui espère faire une philosophie sans aucune référence, des fois on me reproche, il y a trop de citations dans tes bouquins. C'est peut-être vrai d'ailleurs, formellement, mais parce que j'ai le sentiment que, bien sûr, j'écris pour exposer ma philosophie. Mais je suis aussi un passeur, comme on dit souvent. C'est-à-dire que j'essaie de faire comprendre aux gens pourquoi Épicure, Platon, Spinoza, Kant, Nietzsche, etc., pourquoi c'est important. Vous voyez, parce que ce sont des textes, quand même, pour certains d'entre eux, difficiles ou très anciens, donc ils ne sont pas absolument dans notre référence intellectuelle. Et donc, il faut faciliter ce passage-là. Vous voyez, c'est pourquoi, dans mon travail, il y a une partie vraiment pédagogique. J'écris des livres qui sont des livres d'initiation à la philosophie. Présentation de la philosophie, par exemple. Un livre que je sors dans 15 jours, qui est un recueil de textes de philosophes. Voilà. Là, on est dans la pédagogie. Je fais aussi et surtout des livres de philosophie personnelle, mais que j'aurais été incapable de faire si je n'avais pas passé des dizaines d'années à lire les plus grands philosophes du passé. Allez, dernière question.
Bon, moto là, moto. Ouais, bon. Vous m'entendez ?
Prenez le micro.
J'ai une question. En fait, vous entendre, la philosophie, finalement, se résume à une recherche personnelle. Et donc, tous les problèmes de société, politique et autres, la philosophie ne répond à aucune question.
Ça dépend, si vous entendez, par problème de société. Mais les problèmes philosophiques, c'est quoi ? C'est les grandes questions. La liberté, la justice, la liberté, la vérité, la connaissance, la mort, l'amour. Alors, est-ce que c'est des problèmes de société ? En un sens, oui. Si vous voulez faire de la politique, avoir une idée de ce qu'est la justice, c'est quand même intéressant. Si en revanche, vous demandez à la philosophie de vous dire pour qui voter aux prochaines élections, vous n'avez pas compris ce qu'est la philosophie. Et moi, ça me frappe beaucoup parce que je trouve que moi, je suis un homme de gauche, j'ai toujours voté à gauche. J'ai voté pour François Hollande dès les primaires et pour tout vous dire, il m'a un peu déçu comme tout le monde, mais je ne regrette pas d'avoir voté pour François Hollande, parce que c'est ma famille. Voilà, la gauche libérale, en gros, c'est ma famille. J'ai de l'estime, de la sympathie, du respect et pour François Hollande et pour Manuel Valls. Et en même temps, il y a des tas de gens qui lisent mes bouquins, qui sont d'accord avec ce que j'écris en philosophie, et qui ont voté pour Sarkozy, ou pour Mélenchon, ou pour qui sais-je, si vous voulez. Et c'est normal, parce que mes livres sont des livres de philosophie. Et à l'inverse, il y a des gens qui sont d'accord avec moi pour voter pour Hollande ou Manuel Valls, et qui ne sont pas du tout d'accord avec moi en philosophie. Et c'est normal, c'est pas la même chose. Donc, je ne suis pas du tout en train de faire la théorie du philosophe dans sa tour d'ivoire. Quand je dis philosopher, c'est penser sa vie et vivre sa pensée. C'est vrai. Mais votre vie, elle est dans le monde, elle est dans la société. Donc, pour penser sa vie, il faut penser le monde et la société. En revanche, ne comptez pas sur la philosophie pour résoudre tel ou tel problème social ou politique. Si vous demandez à la philosophie quel remède contre le chômage, vous allez forcément être déçu. En revanche, la philosophie peut vous éclairer contre un certain nombre d'illusions. Oh, moi, j'ai beaucoup contaminé dans le monde de l'entreprise. La plupart des chefs d'entreprise sont persuadés que le travail est une valeur morale. Hein, et que donc les 35 heures sont une loi immorale. Hein. Voilà, j'ai passé des heures à déconstruire cette illusion. Moi, je leur dis, non, le travail n'est pas une valeur morale, c'est une valeur marchande. Hein. L'amour est une valeur morale, la justice est une valeur morale. Hein. Alors, ça éclaire le débat de société. Parce que du même coup, ce que j'essaie de leur faire comprendre, c'est que les 35 heures, les lois obliques, dont je pense c'était une erreur, c'était une erreur économique. Parce que c'est le travail qui crée de la richesse. Si on travaille moins, on crée moins de richesse. Ce n'est pas la meilleure façon de faire reculer la pauvreté. Mais croire que les 35 heures, c'était une erreur morale, c'est un contresens complet. Oui. Alors voilà, là, la philosophie peut éclairer, par exemple, le débat sur le temps de travail en France sur les 35 heures. Moyennant quoi, après, on peut être d'accord avec ce que j'ai dit et avoir des avis différents sur les lois Aubry, par exemple, ou qu'est-ce qu'on va faire maintenant s'agissant du code du travail. Mais voilà, la philosophie, ça sert à philosopher, ça sert à réfléchir à un niveau plutôt fondamental, avec des outils abstraits et rigoureux qui vous aideront, vous, à prendre position éventuellement politique, mais avec une marge de variation très importante. Encore une fois, on peut être philosophiquement d'accord avec moi et politiquement en désaccord, comme on peut être politiquement d'accord avec moi et philosophiquement en désaccord. Et je pourrais vous citer des centaines de cas. Et donc, ça confirme que la philosophie et la politique sont deux choses différentes. J'ajoute, c'est pour ça qu'on a besoin des deux et de la différence entre les deux. Autrement dit, ne comptez pas sur la philosophie pour tenir lieu de politique. La France va mal, vous le savez bien, même vu de Suisse, peut-être surtout de vue de Suisse, parce que la Suisse va mieux. C'est pas la philosophie qui va sauver la France. C'est pas la philosophie qui va nous faire sortir des blocages idéologiques, politiques, de l'impuissance auquel notre malheureux pays est confronté. Donc si vous comptez sur la philosophie pour tenir lieu de politique, vous vous racontez des histoires. Mais réciproquement, si vous comptez sur la politique pour tenir lieu de philosophie, vous vous racontez aussi des histoires. Ce n'est pas François Hollande, Manuel Valls ou Sarkozy ou Mélenchon qui vont vous dire si l'homme est libre ou déterminé, s'il y a une vie après la mort, qu'est-ce que le bonheur, qu'est-ce que la justice ou qu'est-ce que la sagesse. Hein. Et donc voilà, les deux sont nécessaires, les deux, philosophie et politique, les deux sont nécessaires, les deux sont différentes l'une de l'autre, c'est pourquoi, encore une fois, on a besoin des deux. Il me reste à vous remercier, à vous souhaiter une excellente fin de journée. Merci.